Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Cube Radio. L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mêlez-vous de vos affaires. Avec Yves Daou et Michel Girard, Cube Radio.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez été plusieurs à suivre l'élection américaine et l'arrivée de Joe Biden comme président des États-Unis, qui a soulevé beaucoup d'enthousiasme au Québec en raison de son programme d'énergie renouvelable. En débat, vous vous rappelez, Joe Biden avait questionné l'aide à l'extraction du pétrole aux États-Unis et il est certainement moins pro-pétrole que Donald Trump. Alors, pour surfer sur ce thème, je vous ai concocté une émission très énergétique. On va parler d'Hydro-Québec avec le chroniqueur Michel Girard. Et on va lancer une grande question. Va-t-on manquer d'électricité au Québec en raison du virage vers les voitures électriques puis les contrats d'électricité aux Américains? On vous a présenté aussi une entreprise qui s'appelle le Groupe Lavagne, qui est une entreprise qui est devenue un chef de file en matière de récupération du plastique recyclé au Québec, dont les résidus se retrouvent dans tous les produits de consommation au Québec, dont les cafetières, les cartouches d'encre d'imprimantes. Donc, un groupe extrêmement intéressant. On va répondre à la question « Pourquoi le fondateur de la voiture électrique Tesla est devenu la deuxième personne la plus riche au monde? » Mais on débute l'émission en faisant connaître aux Québécois une entreprise qui s'appelle Boralex de Kings Effort près de Drummondville, qui est une entreprise québécoise qui est devenue un joueur clé dans l'énergie renouvelable. Bon balado! Le gouvernement Legault, en début de mandat, avait parlé de construire des nouveaux barrages hydroélectriques en vue des besoins énergétiques des Québécois. Mais ce projet a été mis de côté et maintenant, le Québec veut relancer la filière éolienne dès 2021 pour combler d'importants besoins énergétiques. Pour parler d'énergie éolienne, la meilleure personne pour parler de ça, c'est le PDG de Boralex, Patrick Lemaire, une entreprise privée qui possède des parcs éoliens ici et partout dans le monde. Bonjour, M. Lemaire.
Bonjour, M. Daou.
Vous êtes à la tête de Boralex depuis 2006. Votre entreprise là, a le vent d'un voile. Vous êtes le fils de Bernard Lemaire, bon de le rappeler, un des trois frères Lemaire qui ont bâti le groupe Cascade, qui est en fait un des fleurons québécois dans le secteur des pâtes et papiers. Votre père, qui est Bernard Lemaire, qui est plus âgé maintenant que 85 ans et qui a été un véritable entrepreneur en série. Au début des années 90, il a lancé Cascade Énergie, qui est devenu aujourd'hui Boralex. Est-ce que votre père est fier aujourd'hui de tout ce que vous avez accompli à la tête de Boralex?
Ah, c'est certain que mon père est très, très fier du parcours de Boralex, une petite entreprise ou une petite division de Cascade, comme vous avez mentionné, Cascade Énergie, début des années 90, avec une centrale de cogénération gaz naturel à Kings and Falls, et aujourd'hui est rendu un grand producteur d'énergie renouvelable, en France, surtout partout au Canada et un peu aux États-Unis, avec plus de 2000 mégawatts.
Mm. Bon, on a appris récemment que vous allez quitter la direction à la fin de l'année de Boralex. Et plusieurs personnes se posent la question, est-ce que la famille Lemaire va demeurer actionnaire important de Boralex après votre départ?
La famille Lemaire n'a jamais, à part des investissements personnels, n'a jamais été un grand actionnaire de Boralex. C'était Cascade qui a été jusqu'en 2017 le plus grand actionnaire de Boralex. Mais comme on le sait, Cascade a vendu de sa participation dans Boralex à la Caisse de dépôt en 2017. Et ça a mis fin à l'aventure de Cascade dans l'énergie à ce moment-là.
Donc, est-ce qu'il ne restera plus de Lemaire dans Boralex après votre départ?
Donc, je vais continuer chez Boralex comme administrateur.
Okay.
Mais dans la gestion quotidienne de l'entreprise, il n'y aura plus de l'OMER.
Okay. Vous êtes présent au Québec là, avec 3 parcs éoliens et peut-être d'autres 128 éoliennes situées en Gaspésie, dans les Appalaches. Et là, Hydro-Québec a quand même signé une trentaine de contrats dans le passé, là, de contrats d'achat d'électricité à long terme avec plus d'une trentaine de parcs éoliens au Québec. Et on sait qu'il y a eu beaucoup de questions sur le coût à payer pour la production de cette énergie-là qu'Hydro-Québec est obligé d'acheter. Là, on parlait souvent des contrats à 11 cents le kilowatt, alors que Hydro-Québec est capable de le produire à moins de 4 sous là, avec ses barrages. Puis là, Québec veut relancer cette industrie-là. Est-ce que c'est coûteux pour les Québécois, l'énergie éolienne?
C'est sûr, si on compare à il y a quelques années, le coût de l'énergie éolienne a diminué de beaucoup. Et si on parlait de tarifs entre 8 et 10 cents, et parfois 11 cents, vous avez raison, le kilowattheure, aujourd'hui, les tarifs sont de beaucoup inférieurs aux 10 cents à l'époque. Et aujourd'hui, c'est probablement l'énergie la moins dispendieuse si on la consomme aujourd'hui. Quand on au Québec, on a un peu on véhicule un coût de tarif à 4 cents des grands barrages. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des barrages qui ont été construits il y a 60 ans.
Mm-hmm.
À ce moment-là, le coût était de beaucoup inférieur. Aujourd'hui, construire un grand barrage, je peux vous dire que ça, c'est plus cher. Ça va donner un kilowattheure plus cher que l'énergie éolienne. Et bientôt, l'énergie solaire pourra être compétitive, même si on peut penser qu'au Québec, l'énergie solaire ne serait pas compétitive. Mais il y a tellement une évolution positive ou à la baisse du tarif suite à la réalisation d'un parc solaire, on pourrait anticiper qu'un jour, l'éolien et le solaire aussi seraient plus compétitifs que la grande hydro.
Avez-vous été surpris de ce retour du gouvernement du Québec qui veut relancer l'énergie éolienne alors qu'il n'y a pas si longtemps, vous vous rappelez, l'ex-président de Hydro-Québec, Éric Martel, avait parlé de la spirale de la mort avec le fait qu'il croyait que les consommateurs devenaient producteurs eux-mêmes d'électricité, qu'on avait même encore des surplus électriques. Et là, aujourd'hui, on se pose la question, comment ça se fait que tout à coup, on pense qu'on va manquer d'énergie au Québec?
Mais je pense que c'est l'objectif du gouvernement, puis qui est mentionné dans la relance verte, d'être la batterie du Nord-Est américain. Si Hydro-Québec peut signer ou signe des contrats d'approvisionnement d'électricité dans les États limitrophes. Là. Je vais parler l'État de New York. Il y a déjà une entente de signer sur le Massachusetts. Et s'ils ont un succès à augmenter cette exportation-là, à ce moment-là, les surplus vont être consommés. Et il ne faut pas oublier que des projets d'infrastructure comme l'éolien, mais ça prend plusieurs années pour construire un parc, passer à travers les approbations environnemental et ensuite passer à la construction. On peut penser 3-4 ans. C'est-à-dire que si en même temps, mais les surplus sont consommés, il faut commencer aujourd'hui ou bientôt à avoir une vision sur de la nouvelle électricité.
Il y a une nouvelle qui est passée la semaine passée et je vous pose cette question-là. Hydro-Québec a annoncé une alliance stratégique et un placement privé de 661 millions avec votre principal compétiteur qui est Innergex. Est-ce que cela vous inquiète?
Non, du tout, parce que l'investissement qui était fait par la direction sous Martel un axe de croissance ou de déploiement de capital à travers Innergex pour des projets hors Québec. Mais sachez que Sophie Brochu, à son arrivée, a mentionné qu'elle regarderait le Québec en priorité et participer à la relance économique du Québec avant de regarder les projets à l'externe, ce qui est de bon augure pour les producteurs privés québécois.
Est-ce que vous êtes pour parler avec Hydro présentement?
On a toujours des discussions en continu avec Hydro-Québec. On avait des bonnes relations avec Hydro-Québec avant l'arrivée de Sophie Brochu, et ça se continue aujourd'hui. Mm-hmm.
Vous avez acheté beaucoup de parcs éoliens un peu partout en France et même aux États-Unis. Là. La question qu'on se pose, c'est pourquoi en France, les gens voudraient vendre leurs parcs éoliens si c'est tellement important, les parcs éoliens?
Parce que c'est du recyclage de capital. Mm-hmm. Il y a des entreprises qui investissent dans, justement, les énergies renouvelables. Puis, après quelques années, ils ont le rendement attendu. Puis, à ce moment-là, ils vendent leurs actifs. Mm-hmm. Et aussi, il y a des périodes favorables. On n'a pas fait d'acquisition en France de parcs éoliens depuis 2018. Et on vient de faire... qui ne sont pas finalisés, mais on vient d'annoncer deux acquisitions en Amérique du Nord. On a annoncé l'achat du 49% de la caisse dans certains parcs éoliens québécois.
Mm-hmm,
et pour eux aussi, c'est du recyclage de capital. Et on a annoncé aussi l'acquisition de parcs solaires aux États-Unis.
On parle souvent là, de la filière éolienne, puis il y a l'élément évidemment de production, mais il y a aussi toute la question de la production de ces éoliennes-là. Là, des fois, je vois des trains passer là ici avec la structure complète, les pannes, tout ça. Est-ce que le Québec va devenir aussi un producteur de ces éoliennes-là, là, autant au niveau des pannes et autres éléments?
Bien, il y a déjà quelques sociétés au Québec qui produisent soit des tours ou des pales. Ça se fait déjà. C'est sûr que avec la filière éolienne qui n'a pas fait de projet au Québec, c'est pas des pièces qui se transportent très loin.
Mm-hmm.
Et c'est au niveau rentabilité. Ça veut dire que ces entreprises-là disent, bon, ben, ont dû trouver d'autres débouchés quand je pense aux tours. Mais ils sont prêts à dire une nouvelle relance de la filière éolienne à reprendre le flambeau et produire des pièces pour le Québec.
Est-ce que, en terminant, je voudrais juste vous poser la question. Bon, l'élection américaine est terminée. Joe Biden, qui est quand même a un programme important d'énergie renouvelable, bonne nouvelle pour Boralex?
Oui, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle pour Boralex. Malgré que les objectifs de renouvelables étaient au niveau des États, comme quand on pense à l'État de New York, mm-hmm. où Boralex œuvre depuis peu de temps pour de la croissance, le gouverneur Cuomo a des objectifs de renouvelables très élevés et qui ça nous a permis justement de mettre une équipe en place. Et déjà, on a gagné en début d'année cette année 180 mégawatts de solaire qu'on devrait construire d'ici les trois prochaines années. Et on répond au fil du temps à différents appels d'offres qu'on a dernièrement. On a répondu à un appel d'offres avec 140 mégawatts. On ne sait pas encore si on a gagné cet appel d'offres-là, mm-hmm. mais ça crée pour nous, une nouvelle juridiction pour de la croissance au niveau du renouvelable. Et l'arrivée de M. Biden, bon, ben, il y a un programme en place de crédit de taxes qui aide le renouvelable, et bien, avec l'arrivée de Biden, ben, ces programmes-là, ou un autre système qui avantage le renouvelable devrait être mis en place dans les mois qui viennent.
Bon, bien, M. le maire, vous nous avez éclairé, évidemment, sur Boralex, évidemment, cette division, cette entreprise qui est née d'une entreprise qui est un fleuron du Québec, qui est Cascade. Je sais que vous quittez à la fin de cette année et puis que vous allez toujours être dans l'entreprise. Donc, merci de cet éclairage-là. Donc, c'était Patrick Lemaire, qui est PDG de Boralex et qui quitte l'entreprise ou la direction de l'entreprise à la fin de cette année. Merci, M. Lemaire.
L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mêlez-vous vos affaires. Cube Radio.
On vient de discuter avec le PDG de Boralex, Patrick Lemaire, de l'avenir de l'énergie éolienne au Québec. Je vous rappelle qu'en 2018, l'ancien président d'Hydro-Québec, Éric Martel, craignait une spirale de la mort. Il disait qu'il s'inquiétait que les Québécois deviendraient producteurs d'électricité. Avec les surplus d'électricité, on aurait, dans le fond, trop d'énergie. Et là, il y a un choc électrique qui est arrivé cette semaine. Le gouvernement Legault est maintenant inquiet de manquer d'électricité et veut relancer la filière éolienne dès 2021. Donc, pour en parler, je reçois Michel Girard, chroniqueur au Journal de Montréal, au Journal de Québec. Salut Michel.
Salut Yves.
Pourquoi il y a urgence maintenant de se relancer cette filière-là de l'éolienne qui nous a quand même coûté très cher, là, les contrats éoliens là, qu'on a signés là, avec Hydro-Québec au cours des dernières années?
Oui, ben, les contrats coûtent cher parce que la production d'électricité par l'entremise de l'éolienne, ben, c'est qu'on s'en sert que partiellement. C'est parce que Hydro-Québec, à l'heure actuelle, a des surplus de production. Alors, ce qui fait que, dans le fond, il n'y avait pas besoin de toute l'énergie éolienne qu'il a contractée au fil des années. Et puis, il faut dire qu'il achète l'énergie éolienne à un prix nettement plus élevé que ce que le prix que ça lui coûte de produire de l'électricité, évidemment. Alors, juste un petit mot maintenant sur Éric Martel qui parlait de la fameuse spirale de la mort en 2018, quand il était PDG d'Hydro-Québec. Maintenant, il est PDG de Bombardier. Là. Il a changé
un autre spirale.
Il a changé d'emploi. Une autre spirale. Oui, c'en est toute une, celle-là. Alors, lui, il avait peur, justement, que les Québécois achètent des fameux panneaux solaires photovoltaïques à bas prix. Alors, il croyait que le fait que les Québécois se dotent de ces panneaux-là, évidemment, consomment moins d'électricité de la part d'Hydro-Québec. Mais finalement, ça c'est resté marginal, cette production-là. Puis là, ben c'est à cause du plan vert que lancé il y a deux semaines, une semaine et demie, là, le gouvernement Legault, le plan vert qui laisse entendre, évidemment, qu'on va de plus en plus électrifier le parc automobile. Alors, et puis on sait d'ailleurs qu'à partir de 2035, plus de voitures à essence vont se vendre au Québec. Ça va être interdit. Donc, on va à cacheter que des voitures électriques. Donc, ce qui fait qu'évidemment, plus on va consommer de l'énergie électrique, et là, on est en surplus à l'heure actuelle, mais il est prévu d'ailleurs qu'en 2000, à partir de 2026, c'est pas loin ça, on va commencer à avoir des besoins d'énergie électrique supplémentaire. Alors, ce qui veut dire que Hydro-Québec, c'est pour ça qu'Hydro-Québec lance tout de suite là, des appels d'offres pour produire plus d'énergie éolienne, parce qu'on va en avoir besoin à partir de 2026. Puis tu vois, en 2029, écoute, c'est pas loin ça là. En 2029, le secteur résidentiel par rapport à 2019, tu vois, on va avoir une hausse de consommation électrique de 8,4%. Le secteur commercial, tiens-toi bien, une hausse de près de 20%. Parce que le secteur commercial, ça inclut évidemment l'électrification du parc automobile, puis l'électrification de plus en plus des serres, etc. Mm-hmm. Et le secteur industriel, une augmentation de 3,2. Ce qui fait qu'on va manquer vraiment, en 2029, on manque 3 TWh en passe pour ton
On n'a pas les contrats. On n'a pas les contrats qu'on va signer aussi avec potentiellement avec des États-Unis comme le Maine.
Oui, c'est ça. C'est que juste pour nos besoins à nous, on va manquer d'électricité. Fait que si on veut exporter, si on obtient des contrats d'exportation, qui théoriquement, c'est relativement payant, c'est payant là à l'heure actuelle parce qu'on a des surplus. Mais en tout cas, bref, mettons si on veut se lancer vers le marché américain pour y exporter de l'énergie, ou même l'Ontario, ben c'est qu'on a besoin de plus de production d'électricité. Puis Hydro-Québec vise l'éolienne. Maintenant, on sait que l'énergie éolienne coûte quand même plus cher.
Hey Michel, y a-t-il un danger qu'un bonjour gouvernement se serve d'Hydro-Québec comme véhicule pour hausser davantage ses revenus puis se servir justement de toute cette nouvelle filière-là?
Ben effectivement, moi, c'est ma crainte parce que, regardons, ce qu'on sait, c'est qu'Hydro-Québec, c'est un monopole, mais c'est un monopole qui appartient au gouvernement du Québec. Et puis, tu sais que là, cette année, bon, on est dans le trou de 15 milliards de dollars à cause de la COVID, là, évidemment. Ensuite de ça, les prochaines années, on va être également en lourd déficit. En vue de rééquilibrer, c'est sûr que le gouvernement du Québec va devoir aller chercher de nouvelles sources de revenus. Et moi, ma crainte, c'est que, évidemment, là, à l'heure actuelle, l'électricité, ça coûte pas cher, relativement pas cher au Québec par rapport ailleurs. Mais c'est évident que ça va être tentant pour le gouvernement de se servir à un moment donné d'Hydro-Québec pour aller chercher plus de revenus, parce qu'il suffit d'augmenter d'un peu le prix de l'électricité parce que le gouvernement du Québec, mais année après année, la main reçoit un dividende d'Hydro-Québec équivalent aux trois quarts du bénéfice net d'Hydro-Québec. Fait que c'est sûr que ça va être tentant pour lui. Et puis, je suis persuadé qu'on va en venir là à un moment donné.
Michel, je vais te garder tantôt. On va se reparler d'une autre énergie qui est l'essence. Donc, à tantôt.
Daou et Michel Girard démystifient, informent et analysent le monde des finances. Pour que vous puissiez, enfin, vous mêler de vos affaires. Cube Radio.
Le Journal de Montréal, cette semaine, a soulevé tout un débat qui est celui de l'utilisation de la langue française dans les services. Plusieurs Québécois ont de la difficulté à se faire servir en français. En fait, un sondage montre même que 58% des Montréalais de 18 à 34 ans disent qu'il n'est pas important de se faire aborder en français dans les boutiques du centre-ville. On a même eu Olivier Primo, un entrepreneur du Québec qui est le roi des réseaux sociaux au Québec, qui a dit « c'est pas important le français, on peut même appeler nos marques de commerce Sly Gang Pizza, d'autres noms de commerce qui sont uniquement en anglais ». Or, j'en parle avec Jean-Denis Garon, qui est professeur en sciences économiques à l'UQAM. Salut Jean-Denis.
Salut Yves.
Ont-ils raison de penser de cette manière-là alors que la seule langue officielle au Québec est le français, puis que le premier article de la Charte de la Ville de Montréal stipule qu'on est une ville de langue française?
Bon, regarde, on va mettre quelque chose au clair là d'abord, là, t'es sur la raison pour laquelle j'en parle dans une chronique économique. Il y a des gens qui vont se demander pourquoi quelqu'un qui parle d'économie se mêle de langue, puis voici pourquoi. Dans une société organisée, où on fait des affaires, où on transige ensemble, où on légifère, la chose la plus importante, c'est nos institutions. La démocratie, le respect de l'égalité homme-femme, ainsi de suite, et la façon dont on communique ensemble en respect avec notre histoire. Et pour moi, le respect de la langue française, le respect de la langue des bâtisseurs du Québec moderne, le respect de la langue qui fait en sorte qu'on est capable d'intégrer, de continuer de former, d'intégrer à notre économie la genèse du Québec, incluant celle de région, c'est le français, puis c'est super important. Moi, je pense que c'est hautement économique. Maintenant, Yves, tu m'as parlé de langue officielle. Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter? Puis il y a une chose dont j'aimerais te parler, c'est la fameuse question du recul. Bon. Les journalistes sont allés dans les commerces, ils ont eu de la misère à se faire servir en français. Alors là, il y a des gens qui ont sorti des statistiques, je suis allé les voir, évidemment. On garde toujours mon cœur d'économiste. Et là, ils disent, écoutez, c'est pas vrai qu'il y a un recul du français. D'abord, il y a des études de l'Office québécois de la langue française qui montrent que, on fait du surplace. Si tu regardes la marge d'erreur, tu sais, deux chiffres qui sont égaux l'un avec l'autre, en statistique, c'est souvent un match nul à cause des marges d'erreur. Alors, l'Office québécois de la langue française montre qu'il n'y a peut-être pas de recul très, très marqué, mais quand tu regardes les données de recensement, tu te rends compte que et le français et l'anglais, ça c'est l'argument d'André Pratt, et il a raison, et l'anglais et le français reculent en tant que langue parlée à la maison en faveur d'autres langues. Mm-hmm. Bon, alors voici les deux choses que je veux dire. D'abord, on est une société d'immigration. Alors, ce que je viens de dire là, ça démontre qu'encore plus qu'avant, c'est important de protéger le français et d'établir l'usage du français comme langue collective et nationale comme notre priorité, comme langue d'intégration. C'est fondamental. Et comment on peut commercer ensemble, vivre ensemble, légiférer ensemble si on n'a pas ça? Et si on ne respecte pas ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est l'argument de Luc Lavoie, qui parlait sur une radio concurrente, qui disait, écoutez, je regarde ça, il n'y a pas de recul au Québec. OK. Est-ce qu'on attend qu'il y ait un recul des droits de l'homme pour continuer à les défendre? Mm-hmm. Est-ce qu'on attend que l'égalité homme-femme ait souffert un gros coup? Qu'est-ce qu'on attend, en fait? On attend-tu qu'un jour, il y ait un rapport de l'Office québécois de la langue française qui nous dise, écoutez, là, ces trois dernières années, on a tellement mangé une claque, Yves, là, que, écoutez, les Québécois, là, francophones, là, ceux qui ont bâti le Québec moderne, là, avec notre minorité anglophone, vous êtes plus bienvenus chez vous dans la métropole. Allez-vous donc à Val-d'Or, en Gaspésie, puis prenez votre mal en patience. Il est trop tard.
Mais Jean-Denis,
on attend tout ça.
Jean-Denis, on a fait un dossier là dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, avec les entreprises, ce qu'on appelle les jeunes pousses, là, les start-up qui mm-hmm. partent les entreprises. Là. Toutes des noms anglais. Lightspeed, Marché Good Food, Brainbox. Quel message que ça donne? T'sais, on a des entreprises qui rayonnent à travers le monde. On a eu le Cirque du Soleil, on a eu Bombardier. Comment il se fait qu'aujourd'hui, on se retrouve à être obligé de dire on doit défendre notre langue française alors qu'on pensait que c'était quelque chose comme déjà convenu?
Bon, d'abord, recul ou pas, là, ce qui était inacceptable avant n'est pas moins aujourd'hui. On va s'entendre aujourd'hui. Fait que les gens qui nous disent qu'on se fait pas servir plus en anglais aujourd'hui qu'avant, ben regarde, ça rend pas la chose plus acceptable. Tu sais, Yves, on est très perméable à la culture anglophone, à la culture américaine, tu sais. Faut faire attention là où on place le blâme, on le sait, on s'entend parler, même moi, des fois, moi-même, écoute, tu sais, des fois, on sort des anglicismes, on parle anglais, c'est délicat. T'sais, il faut réétablir ça comme norme sociale, mais tu sais, c'est certain que c'est pas une précondition avoir une marque de commerce anglaise pour faire du commerce, aller parler à Volkswagen, aller parler à Allianz en Allemagne, aller parler au Cirque du Soleil, c'est pas une précondition, mais ça devient une précondition quand tes clients, ceux qui veulent acheter tes produits, même au Québec, trouvent tellement que le français est plus important que eux te demandent d'avoir un nom anglais pour que le produit que tu vends soit dans la vague, dans le vent, soit, ouvre les guillemets, in. Pardonne-moi.
Il y a même des spécialistes qui ont soulevé la question. Mettons, t'as des entreprises québécoises qui ont besoin de financement de l'argent public du Québec, de la Caisse de dépôt d'investissement Québec, ben une des conditions, c'est que leur marque de commerce soit en français.
Ben écoute, c'est une question délicate parce que, tu sais, la Caisse de dépôt, les grands fonds d'investissement veulent du rendement aussi, veulent aller chercher des entreprises qui ont du rendement. Puis aussi, Yves, dans beaucoup de cas, ils font pas de la gestion quotidienne dans les entreprises. Alors, c'est une question qui est très, très délicate. Mais moi, je reviens à deux choses. Un, il y a la demande. Tu sais. Il faut que les Québécois se rendent compte que on n'est pas des perdants de parler notre langue, que c'est une langue qui est magnifique, qu'on peut faire des affaires avec l'étranger, on peut être bilingue. Puis ça donne pas le droit à nos commerçants de ne pas nous accueillir dans la seule langue officielle dans un commerce du centre-ville. Puis j'ajouterais à ça, par ailleurs, récemment, j'avais mis sur le seul réseau social sur lequel je suis, j'avais félicité le ministre Jolin Barrette de dire on va l'appliquer, la loi linguistique. On va en donner peut-être des contraventions. Il y a un homme d'affaires qui m'avait répondu, il m'avait dit, écoute, félicitations, en pleine pandémie, les entreprises mordent la poussière. Donne-en des contraventions. Tape-nous dessus encore. T'sais. Et là, je regardais ça, moi, j'étais sur la route aujourd'hui, puis il y a quelqu'un qui a pris une contravention parce qu'il roulait à 140. La police, elle n'a pas dit, pauvre monsieur, t'es en pandémie, je vais te donner une chance. Les entreprises, quand on ne veut pas que le chantier de la Caisse de dépôt aille déposer des matières contaminées en Ontario, puis tout est décontaminé ici, on ne dit pas, hey, mon Dieu, ils sont en pandémie, ça fait pitié. Après ça, quand on va vouloir les appliquer, les lois, je te rappelle, c'est nos institutions fondamentales, c'est ce qui nous permet de fonctionner comme économie, comme société. Ils vont dire que ça nuit à reprise. Puis prochaine récession, ils vont dire que ça les met dans le trouble. Ce ne sera jamais le temps, Yves.
On a parti ce débat-là. Je pense qu'il n'est pas terminé. Mais je vais conclure avec cette émission-là avec toi en te disant à la prochaine et non bye.
Salut.
C'était Jean-Denis Garon, qui est professeur et économiste à l'UQAM. Merci, Jean-Denis.
L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mêlez-vous vos affaires. Cube Radio.
Nous sommes de retour avec Michel Girard, chroniqueur au Journal de Montréal, au Journal de Québec. Michel, on sait que la vente d'essence puis de diesel rapporte annuellement environ 3,4 milliards de revenus en taxes. Si tout le monde se tourne vers les voitures électriques, les camions électriques, qu'est-ce qui va arriver à ces revenus-là?
Ben, regarde, je pense poser la question, on va y trouver la réponse tout de suite. Moi, je ne peux pas croire que le gouvernement du Québec va se priver de 3,5 milliards, comprends-tu, de revenus de taxes sur l'essence et sur le diesel. C'est ce que ça, en dollars d'aujourd'hui, là. Parce que le problème, c'est que, bon, c'est beau l'électrification des véhicules électriques, évidemment, et on est tous on est tous en faveur parce que c'est vraiment plus vert. Les émissions de gaz à effet de serre sont relativement minimes par rapport, évidemment, à une voiture à essence ou à diesel. Or, sauf que le gouvernement du Québec, il y a un manque à gagner, là. Qu'est-ce qu'il va faire? Moi, je suis persuadé qu'il va s'organiser pour aller chercher une partie, en tout cas, de ce manque à gagner en taxes, en revenus de taxes, là, sur l'essence et le carburant. Probablement qu'il va nous introduire à un moment donné une espèce de taxe à l'énergie propre.
Une taxe électrique.
Une taxe électrique automobile. Automobile, on va cibler l'automobile. Écoute, parce que c'est énorme. Puis en plus, non seulement, c'est qu'à vrai dire, c'est plus que 3,4 milliards, parce que tout le volet réparation et entretien des véhicules à essence, n'est-ce pas, ça rapporte énormément, ça aussi. Puis regarde, il y a des taxes là-dessus, il y a beaucoup d'emplois. Mais tu sais qu'avec une voiture électrique, les frais d'entretien sont, je pense, ça équivaut à peu près à un cinquième de ce qu'on dépasse, de ce que ça nous coûte à l'heure actuelle pour une voiture à essence. Donc, ce qui veut dire qu'il va y avoir encore là un autre manque à gagner. Fait que quoi, il va se retrouver avec un trou en dollars d'aujourd'hui de 4 milliards. Voyons donc, penses-tu, le gouvernement par rapport à tous ces programmes, c'est sûr qu'il va se revirer de bord puis il va aller chercher. Moi, je te dis, ça va être sur la taxe sur les véhicules électriques. On va avoir une taxe spécifique là-dessus. Or, évidemment, c'est pas demain matin que ça va se produire, mais on sait qu'à partir de 2035, ça, c'est pas loin.
C'est très court.
Il y a une seule voiture à essence qui va être vendue au Québec. Ça ne sera que des voitures électriques. Alors, donc, plus le parc de voitures électriques va grossir, moins il va y avoir d'entrée d'argent via la taxation sur l'essence et le carburant puis l'entretien des véhicules à essence. Donc, regarde, c'est évident qu'on se dirige vers ça.
Bon, ben Michel, cet éclairage-là, ben on va suivre ça dans les prochains mois et les prochaines années, voir si on n'aura pas cette fameuse taxe à la voiture électrique. Donc, c'était Michel Gérard, chroniqueur au Journal de Montréal, au Journal de Québec.
Arrêtez de vous virer sur une scène.
J'ai eu mon trassou!
Yves Daou et Michel Girard vous rendent la monnaie de votre pièce. Vous écoutez Mêlez-vous de vos affaires avec Yves Daou et Michel Girard. Cube Radio.
Le plastique a mauvaise réputation par le temps qui court. Puis plusieurs Québécois questionnent souvent quand on envoie nos ballots de plastique à travers le monde. Le défi est de taille, qui est celui du recyclage. Et pourtant, il y a une entreprise au Québec qui est devenue un chef de file mondial dans, en matière de récupération du plastique recyclé en vue de le transformer en résine qui sert dans beaucoup de produits. Pour en parler, je reçois le PDG du groupe Lavergne, Jean-Luc Lavergne. Bonjour.
Bonjour, mon cher monsieur.
Votre entreprise est située au cœur d'un quartier industriel d'Anjou depuis 1998. L'usine a une superficie de plus de 160 000 pieds carrés, roule 24 heures par jour. Vous avez des grands clients, BMW, Mercedes, General Motors, Keurig, qui produit évidemment des cafetières, Dawson. Comment avez-vous obtenu la confiance de ces multinationales?
Oui, c'est une très bonne question. En fait, on est en affaires depuis environ à peu près 30 ans. Mais il y a un tournant majeur qui s'est passé au début des années 2000 et un des clients qui s'est joint à nous, qui lui, à ce moment-là, avait déjà dans son ADN la façon de regarder qu'est-ce qu'il devait faire avec un produit de fin de vie. C'est le client Hewlett Packard, HP. Mm-hmm. Et ce client-là nous a permis, à travers leur voix, de démontrer ce qu'on faisait. On était capable de le faire à l'échelle commerciale, dans un environnement industriel, et aussi en faisant en sorte que qu'est-ce qu'on faisait du produit était de qualité et rencontrait aussi la compétition des prix. Donc, c'est un petit peu le début. C'est commencé vers le début des années 2000 avec ce client-là, parce que malgré qu'on avait aussi d'autres clients qui, eux, ont été ou sont aussi des clients chez nous, mais il n'y avait pas la même poussée de vouloir de dire aux gens qu'est-ce qu'ils faisaient avec le produit de fin.
Sans être trop technique, là, expliquez donc aux auditeurs, c'est quoi le procédé pour justement obtenir cette résine-là qui va permettre justement d'être dans des produits de consommation? C'est quoi le procédé rapidement?
En fait, nous, en fait, c'est plusieurs procédés. Moi, j'aime dire que c'est comme un petit casse-tête de 100 morceaux. S'il manque un morceau, tu ne réussis pas à faire le produit de la qualité que tu veux. Mm-hmm. Mais une des choses principales, pour comparer un peu ce qu'on entend aujourd'hui, nous, c'est en grosse partie, la fonction des contaminations, c'est faite mécaniquement. Après, il y a des ajouts à des additifs chimiques, des choses comme ça qui rentrent dedans. Mais c'est vraiment une façon que nous, on a été les premiers en Amérique du Nord d'avoir eu cette technologie-là dans les années, les fins des années 98, avec une entreprise européenne qui, elle, a fait faillite. Et nous, on a pris ça, on a réussi à rendre ça à terme au début des années 2000.
Donc, vous prenez tout le plastique qui est disponible, que ce soit les bouteilles de plastique, les cartouches d'encre, etc. Et à partir de là, vous faites des résidus?
En fait, nous on ne fait pas les résidus. On prend les produits des résidus. En fait, notre technologie n'est pas nécessairement axée sur une matière comme telle. Par contre, ce qui est important pour nous, on n'a pas un réacteur qui fabrique la résine vierge dans notre cours. Donc, ce qu'on a besoin d'avoir, c'est des produits de fin de vie qui sont traités d'une façon quand même acceptable. Donc, c'est un peu la différence avec ce que vous voyez quand vous voyez les choses s'en aller en Asie, des choses comme ça. C'était fait d'une façon qui n'était pas tout à fait de la façon que nous, on aime avoir, recevoir les produits.
En fait, je disais ça au début, là, il y a plusieurs pays d'Asie là, qui ont cessé de recevoir les matières résiduelles qui venaient des pays occidentaux, là, que ce soit la Chine, même l'Inde a peut-être des intentions de ce côté-là. Est-ce que ça veut dire que vous allez devoir peut-être penser à construire des usines ailleurs au Québec et dans d'autres parties du monde?
En fait, c'est ce que vous dites là, c'est tout à fait vrai. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a environ deux ans et demi, la Chine, qui était la poubelle du monde, en fait, là, mm-hmm. d'une façon crue, là, c'est eux qui pouvaient recevoir ça. Et naturellement, tous les pays annexés à ça étaient aussi en partie ça. Et puis pour moi, pour avoir des usines déjà dans le monde, moi aussi, j'étais allé en Chine, puisque la manière que c'était traité, c'était inacceptable pour nous d'avoir ce genre de matière qui pourrait nous approvisionner nos usines. Donc, nous, ce qui est arrivé, puis c'est une coïncidence qui, des fois, il faut travailler fort pour être chanceux, là, mm-hmm. mais c'est une coïncidence que notre usine qu'on a démarrée ici il y a quelques années, mais la nouvelle technologie qu'on vient de rentrer, qui est environ deux ans, rentre parallèlement avec qu'est-ce qu'on voit, avec ce qui a été banni en termes de livrer. Donc, c'est sûr et certain que ça, pour nous, ça nous amène à bâtir des usines. On en a déjà une, bon, comme vous savez, on en a une à Montréal, on en a une au Vietnam, qu'on continue de grandir. On est en train de partir à une usine en Belgique aussi. Et la dernière qu'on vient de faire, là, c'est en Haïti. Celle-ci est pour, par contre, les plastiques des océans, là, ce que vous entendez, là, les Ocean Bound Plastics. C'est ce que l'on fait.
En fait, c'est HP qui a investi 2 millions pour élargir ses activités en Haïti?
En fait, continuons notre stratégie et notre partenaire qui est extraordinaire, c'est un partenaire stratégique. HP, en 2016, nous avait demandé de regarder, il était parti du côté social, il voulait donner un aide à des gens dans ce pays-là, puis ils nous ont invités d'aller voir et on a vu ce qui se passait là-bas. Et on était vraiment, moi, c'est moi-même personnellement qui est allé, j'étais vraiment touché. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a parti un petit recycleur là-bas qui nous permettait de faire une partie initiale, qu'on granulait la matière. Le produit arrivait en Amérique du Nord et nous, on faisait le traitement final. Et puis, HP a publicisé de façon assez importante ce qui se faisait là-bas. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, moi, écoutez, on peut faire beaucoup plus que ça. Fait qu'HP m'a dit, ben, c'est quoi que tu veux dire? Bon, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Mais j'ai dit, si on installe une usine là-bas et puis on fait le traitement directement sur l'île, on va pouvoir améliorer la façon que la collecte se fait, améliorer les gens qui font la collecte aussi, les payer mieux. Et en bout de ligne, on va faire un produit qui va être adéquat et qui va nous servir. Donc, HP m'a dit, ben, qu'est-ce que tu veux? Mais je dis, moi, si tu investis quelques dollars, moi, je vais faire le restant. Donc, ce qu'on s'est entendu avec HP, c'est qu'ils nous ont, en fait, prêté 2 millions de dollars. Et puis, nous, on a mis environ à peu près la même chose. Et notre façon avec HP, c'est qu'on va les rembourser à même le matériel. Donc, ça démontre qu'un partenaire stratégique comme ça, en anglais, on dit le walk the talk. Là, mm-hmm. Ils ont vraiment mis l'emphase là-dessus. Et puis, ça nous démontre que c'est important. Et en plus aussi, c'est qu'HP n'est pas, nous force pas à être exclusifs avec eux. Ils sont tout à fait ouverts à ce qu'on peut travailler avec d'autres gens. Nous, c'est une première. L'Haïti, c'est quand même pas le pays le plus facile à faire affaire.
Non.
Mais nous, c'est une première parmi d'autres. On est en train de parler pour en installer aussi une usine similaire à ça dans d'autres pays comme le Vietnam, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, des choses comme ça.
Vous êtes le fondateur du groupe Lavang. D'où vous êtes venu cette idée-là?
En fait, j'ai travaillé auparavant, environ 4 ans avant de partir de mon entreprise, qui s'est officieusement 84, officiellement 86. Je travaillais pour un distributeur de plastique. Donc, c'est un peu la façon que j'ai vu ça. Mais moi, quand j'ai vu ce qui se passait un peu là-dedans, les gens se disent souvent qu'on part une entreprise dans son garage. Moi, je l'ai parti dans mon bain. J'ai inventé un système pour faire en sorte que qu'est-ce qu'on pouvait faire? On pouvait décontaminer les polymères. C'est sûr qu'à ce moment-là, c'était pas c'est pas ce que c'est aujourd'hui là. Et naturellement, j'ai réussi à m'amener des gens qui sont de très très bonne qualité en termes de performance intelligente, je peux dire ça. Et puis ce que j'aurais donné comme idée, ben ils ont pris ça puis ils ont mis ça à un autre niveau, ce qui est aujourd'hui le groupe Lavelle.
Combien vous avez d'employés présentement?
À Montréal, c'est très automatisé notre usine. À Montréal, on est environ 80. Et puis la plupart des gens qui sont avec nous. C'est aussi un volet recherche et développement qui est quand même assez important chez nous. Donc, la partie chimique. Et puis, la question opération, ce sont à peu près 80 personnes qui travaillent 24 heures, 7 jours par semaine.
Puis, cette expansion-là à l'étranger, est-ce que ça va évidemment nécessiter du financement? Est-ce que vous avez besoin dans la caisse de dépôt Investissement Québec ou vous comptez beaucoup sur vos clients privés?
En fait, on ne compte pas sur nos clients privés. Dans le contexte que ce qu'HP a fait, c'est un peu dire « don't wish what you ask for ». Quand je leur ai demandé ça, j'étais surpris même qu'ils sont venus le faire. C'est pas la façon standard de faire les affaires, normalement, mais ça démontre le sérieux. Nous, présentement, on fait tout à même nos fonds propres. On a aussi Investissement Québec qui nous a donné certains coups de main là-dessus. Donc, pour la prochaine croissance qu'on parle présentement, on est quand même assez bien financé, mais on regarde toujours à voir ce qui va se passer. Parce que là, ce que je vous avais dit tout à l'heure, nous, on regarde installer des usines un peu partout à travers le monde. C'est pas comme vous allez voir avec ce qui se passe avec la Convention de Basel, la complexité de travailler, de traverser du matériel d'un pays à un autre va devenir de plus en plus compliquée, pas dire impossible. Fait que nous, on prévoit déjà que ce qu'on fait présentement, ce n'est qu'un début. Et on va être capable de continuer à le faire.
Des projets vers les États-Unis?
En fait, ça fait partie de notre croissance naturelle. Ce que l'on fait présentement, c'est beaucoup de matériaux des États-Unis qui arrivent ici pour nous, pour être traités. Mais on sait aussi qu'à moyen terme, on va devoir le faire. Et puis, ce qui est important aussi, c'est ce que vous dites tout à l'heure, le fameux message qui est très négatif en termes des plastiques. C'est mes compétiteurs, moi, c'est des gens qui fabriquent la matière vierge. Donc, eux, présentement, il y a toutes sortes de projets qui se passent un peu partout dans le monde quand on parle de recyclage chimique et tout. Donc, je pense que là, la pression est là. Mais ça fait longtemps que le plastique recyclé existe depuis que le plastique existe. Mais recycler le plastique, à être capable de le refaire et le remettre dans des valorisations qui sont égales à le plastique vierge, ça, c'est plus compliqué. Et moi, là, j'ai eu la grande chance d'avoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, un client comme HP. Aujourd'hui, on emboîte le pas avec des clients comme Keurig, Sonos, Dyson, qui sont tous des clients qui sont des grands donneurs d'ordre d'une part, mais qui s'aperçoivent qu'on est capable de le faire d'une façon de qualité et commercialement viable. C'est pas des projets à l'échelle, pas des petits projets laboratoires, là. C'est vraiment à l'échelle commerciale.
Vous savez, on a une industrie de la plasturgie au Québec très implantée en Beauce. Je recevais récemment justement l'association qui représente cette industrie-là, qui produit beaucoup de plastique au Québec et qui disait l'enjeu actuellement, c'est vraiment le recyclage. Comment s'assurer qu'on est capable de recycler ce plastique-là? Et donc, peut-être que l'industrie du plastique et vous pourriez vous parler.
En fait, on se parle, mais faut comprendre que si on regarde le problème dans n'importe quelle technologie qu'on parle, le problème est plus au niveau de la logistique et de la collection. Si on regarde comment est-ce que la collecte sélective au Québec, comment ça se passait dans il y a quelques années, nous, on était un des clients qui pouvait prendre ça. Mais on s'est aperçu très rapidement que c'était pas la façon adéquate de pouvoir faire cette chose de la collecte. Là, comme vous le savez peut-être, là, ils sont en train de recommencer à revoir la façon, élargir la consigne, revoir la façon. Et là, même, il y a des grands donneurs d'ordre comme Keurig, Transcontinental, Danone, qui commencent à s'impliquer là-dedans. Enfin, là, on est commencé à rembarquer. Et c'est sûr et certain que si on est capable de faire des choses, ça va nous faire plaisir. Parce que, comme je disais tout à l'heure, nous, on n'a pas un réacteur dans notre cours. Nous, la façon de pouvoir faire les affaires, c'est d'avoir des matières de qualité de fin de vie qu'on peut se traiter. Donc, c'est effectivement notre but à moyen et long terme de pouvoir se procurer de la matière localement.
Donc, ben, merci, M. Lavergne, de nous avoir éclairé, de nous avoir parlé de votre groupe Lavergne, qui est vraiment dans l'innovation au niveau du recyclage plastique. Donc, c'était Jean-Luc Lavergne, PDG du groupe Lavergne. Merci beaucoup.
L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mêlez-vous vos affaires. Cube Radio.
Chaque semaine, on parle des transactions d'initiés, évidemment, de ce qui se passe avec le Québec Inc. Et on reçoit Sylvain Larocque, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, le Journal de Québec. Salut Sylvain.
Salut.
Donc, Andrew Molson encaisse 200 000 $ qui est le président du conseil d'administration de Molson Corp.
Oui, c'est ça. Andrew Molson qui a vendu pour près de 200 000 $ d'actions du brasseur mardi. Il faut dire que l'action de Molson Corp a monté de plus de 40 % depuis la fin octobre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on dirait qu'il a pris cet argent-là pour aller acheter des actions de Terra Technologies. Il vient d'acheter pour 88 000 $ d'actions de Terra Technologies, qui est une biotech de Montréal. Et M. Molson est administrateur de cette entreprise-là depuis le mois dernier. Alors, peut-être qu'il avait besoin d'argent pour acheter des actions de Terra Technologies qui travaille sur des projets très prometteurs en ce moment. Mais on n'a pas à s'inquiéter quand même pour la fortune de M. Molson, parce que sa participation dans Molson Coors avoisine toujours les 180 millions de $. Alors, c'est quand même important.
Il y a un autre PDG qui, lui, avait aussi peut-être besoin d'argent. C'est le PDG et le fondateur du groupe CGI.
Oui, Serge Godin qui vient de vendre pour 5 millions de $ d'actions de CGI. Donc ça s'est passé lundi. Et donc, l'action de CGI qui est quand même en hausse de 15 % depuis le début du mois, comme beaucoup d'entreprises, beaucoup de co-boursiers qui ont monté avec la confirmation des vaccins. M. Godin a peut-être vu une occasion de vendre pour un peu monétiser sa participation dans CGI, une partie en tout cas. On peut dire que le titre de CGI est quand même toujours en recul de 12 % par rapport au début de l'année.
On parle beaucoup là, de cyberattaques, des pirates informatiques, etc. Et donc, là, il y a un leader mondial du logiciel de la cybersécurité qui obtient de l'argent de nos sociétés de capital de risque.
Oui, NoviFlow, c'est le nom de la compagnie. Ce qui est intéressant, c'est que cette entreprise-là a été fondée en 2012 à partir de travaux qui avaient été effectués à l'UQAM, comme quoi des fois la recherche universitaire peut mener à des belles choses sur le plan des affaires. Donc, NoviFlow qui a récolté 8 millions de la part du Fonds de solidarité FTQ et de Exportation et Développement Canada. On sait que ces deux institutions-là maintenant travaillent ensemble pour financer des entreprises québécoises. Ça, c'est intéressant. NoviFlow qui est vraiment présent dans plusieurs pays dans des logiciels de cybersécurité et ce qu'ils appellent, eux, les réseaux programmables. Donc, vraiment une belle annonce d'investissement ici cette semaine.
On parle beaucoup là, des centres commerciaux depuis un bon bout de temps. Un des grands actionnaires de parcs de centres commerciaux, c'est Communard. Alors, il y a beaucoup d'activités qui se passent de ce côté-là.
Oui, Communard qui est basé à Québec. On avait parlé il y a quelques semaines des investisseurs de Nouvelle-Écosse, George et Simé Armoyan, qui ont acheté finalement au fil des mois, depuis le début de la pandémie, pour 150 millions de parts de Communard. Et là, finalement, on découvre depuis le début du mois de novembre, ils en ont vendu pour 4,4 millions. Et là, il faut dire que l'action a remonté, donc ils ont peut-être dit... On va déjà prendre une partie de nos profits tout de suite. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le couple vient de déménager de Halifax à Montréal parce qu'ils ont des projets immobiliers importants à Montréal. Donc, il va falloir les suivre, ces deux-là.
Je vais terminer en disant un dirigeant là, de Papier Résolu là, qui vient juste de vendre plusieurs actions.
Oui, Richard Tremblay, qui est premier vice-président à l'exploitation de la pâte et du papier chez Résolu, qui a vendu pour 100 000 $ d'actions. Au cours des dernières semaines, il avait exercé des options Le site est en hausse importante là, depuis le début de 2020. Alors, une belle prise de profit pour M. Tremblay.
Sylvain, on va continuer à te suivre dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Donc, c'était Sylvain Larocque qui est chroniqueur au Journal de Montréal avec sa chronique dans l'œil du Québécois. Et on continue à te suivre chaque semaine. Merci.
L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mêlez-vous vos affaires. Cube Radio.
On apprenait cette semaine que le grand patron de Tesla, Elon Musk, était devenu le deuxième plus grande fortune mondiale en détrônant évidemment Bill Gates, qui a toujours été dans le classement Bloomberg des 500 plus grandes fortunes au monde. L'entrepreneur qui est fondateur de l'entreprise spatiale SpaceX possède maintenant là, une fortune globale de 127 milliards de dollars. C'est quand même beaucoup d'argent. Et pour en parler, on en parle avec Michel Nadeau, qui est spécialiste du Québécois, mais aussi un analyste du secteur financier. Salut Michel.
Bonjour Yves.
Les entreprises d'Elon Musk là, ne font toujours pas de profit. Comment arrive-t-il à avoir autant d'argent sur papier?
Bien, d'abord, les derniers trimestres ont été rentables. Les derniers trimestres de Tesla ont été rentables. Le marché a très bien accueilli ça. Ce qui arrive, c'est que M. Musk travaille dans des domaines très traditionnels. L'industrie de l'automobile, qui est dominée par GM, Ford, Chrysler, longtemps, Toyota, Honda en Asie, Peugeot, Renault, Volkswagen en Europe, Fiat. Alors donc, c'est une industrie traditionnelle qui ne changeait pas beaucoup. On mettait beaucoup d'accent sur le marketing, une jeune personne en petite tenue là, sur le capot de la voiture. C'était longtemps la façon dont on vendait des voitures en Amérique du Nord. M. Musk est arrivé avec non seulement une technologie différente, mais une ligne différente, une esthétique différente. Donc, il est arrivé avec un produit qui plaisait beaucoup aux gens, à la fois sur les portes qu'on ouvre, les portes latérales qu'on ouvre sur le côté, donc qui plaisait beaucoup aux consommateurs nouvelle vague, aux nouveaux riches, et en même temps qui avait des vertus vertes qui répondaient aux besoins de l'environnement. De plus en plus, les gouvernements s'aperçoivent qu'il faut passer une économie moins gourmande en hydrocarbures. Mais évidemment, même si le prix de l'essence n'est pas cher, même si le prix du brut est toujours autour de 40 $, on s'aperçoit que pour le réchauffement climatique, il faut que nos véhicules, les camions et les véhicules de plaisance soient beaucoup plus économiques. Alors donc, M. Musk est arrivé et a très bien répondu à cette demande-là, et il était le seul. Les autres compagnies, les grandes compagnies, ont chacune leur voiture hybride ou électrique, mais c'est un petit pourcentage. Alors que M. Musk, lui, a fait le pari d'être uniquement dans ce secteur-là.
Mais là, ce que je comprends, c'est que le fait que lui ait été un des premiers, ça a quand même donné un élan à tout un écosystème là, des constructeurs de voitures électriques, les technologies automobiles qui... vertes qui vont s'intégrer à ces voitures-là. Et je regarde ça, là, aux États-Unis, les rendements des titres de toutes ces entreprises-là, c'est tout en hausse.
Exactement. Vous avez beaucoup d'entreprises. Évidemment, à la base, c'est la batterie. La batterie, c'est ce qui fait la force d'une voiture électrique ou même d'une voiture hybride. Et ça, encore une fois, M. Musk a fait le pari de développer des usines d'une technologie de batterie extrêmement puissante. Il est en train de bâtir dans la banlieue de Berlin là, une usine pour fabriquer des batteries pour alimenter ses installations de production de véhicules, aussi à Berlin, 500 000 véhicules par année visés. Or donc, à partir de la batterie, là, on a développé toutes sortes de technologies hybrides, c'est-à-dire que vous avez la batterie qui complète, qui se recharge en roulant avec de l'essence, vous avez la prise, le véhicule où on recharge la batterie. Vous avez la batterie entièrement électrique avec un rayon d'action qui est de plus en plus grand, 600, 800 kilomètres maintenant, évidemment, tout dépend de la température. Donc, toute cette cette nouveauté-là, même si c'est un petit marché. C'est un petit marché, mais là, les gouvernements envoient de plus en plus le signal qu'il faut changer. Et l'élection de Joe Biden, M. Biden l'a dit, le pétrole, c'est une énergie de transition. En 2050, il n'y en aura plus aux États-Unis, selon nos prévisions.
Mais même, donc, au Québec, là, le oui. gouvernement du Québec a lancé ce grand chantier qui est la filière du lithium et de la batterie. On est en train de regarder ça, nous aussi, au Québec, là.
Exactement. Le Québec a pas. Il y a plusieurs projets là-dedans. Hydro-Québec est bien impliqué, puis tout ça. Donc, il y a partout dans le monde une volonté des gouvernements de réduire la dépendance. Le traité de Paris, là, pour réduction des gaz à effet de serre, va revenir à la mode avec le départ de M. Trump. Il est clair que le véhicule électrique va tranquillement remplacer le véhicule à essence. Mais évidemment, il y a toute une industrie, là. Il y a des usines, il y a des chaînes de montage, il y a des stations-service. Pensez à Couche-Tard, par exemple. 70% des revenus de Couche-Tard, c'est de la vente de l'essence. Alors, évidemment, M. Bouchard dit on veut faire de la recharge électrique, mais, encore une fois, est-ce que la recharge électrique va coûter 50-60 $, que le même prix que lorsqu'on fait le plein pour notre véhicule? Donc, dans ce contexte-là, il y a toute une infrastructure du véhicule à essence là qui est là, qui est très présente, qui apporte une certaine puissance au véhicule, au 4x4. On sait que les Nord-Américains aiment de gros véhicules, alors que les Européens aiment les véhicules plus compacts. Donc, dans ce contexte-là, il faut prévoir une transition. Ça n'arrivera pas demain matin. Mais là, il y a une volonté des gouvernements, par toutes sortes de programmes, les droits d'enregistrement vont être moins élevés pour les véhicules électriques dans certains pays, le stationnement est gratuit, les bornes de recharge peuvent être très bon marché ou gratuites. Donc, il y aura des programmes incitatifs pour vraiment arriver qu'en 2040, on prévoit 40% des véhicules au moins seront électriques ou hybrides. Mais ce sont des prévisions assez pessimistes. Vous avez des régions comme la Californie qui est beaucoup plus ambitieuse. Et on veut éliminer le véhicule à essence d'ici 2050. Alors, dans ce contexte-là, il est clair que toute cette industrie des pièces, des batteries, des moteurs de véhicules électriques va prendre de l'ampleur. La question, c'est à quel rythme? Et évidemment, si le prix du pétrole augmentait beaucoup, ça serait bien parce que à ce moment-là, l'écart, là, actuellement, on a 8-10 000 $ de prime à payer pour acheter un véhicule électrique. Alors donc, évidemment, on va le récupérer parfois pas. Tout dépend du prix de l'essence. Mais je pense qu'il y a quand même chez les consommateurs une volonté assez forte chez un groupe de consommateurs, beaucoup chez les gouvernements et chez les distributeurs, les garages, les concessionnaires. Évidemment, ils veulent offrir quelque chose de nouveau à leurs clients et les véhicules hybrides et électriques. Puis maintenant, toutes les marques européennes, asiatiques et nord-américaines ont des versions hybrides ou électriques. Donc, il y a des produits partout. Il y en a moins que des véhicules à essence, mais l'offre est en train de très bien s'adapter par rapport à
la... Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a une volonté probablement des investisseurs d'investir dans les titres boursiers qui touchent cette industrie-là. Et je pense que déjà, là, Michel, tu nous as quand même mis la puce à l'oreille que peut-être c'est un secteur d'avenir. Donc, merci beaucoup. C'était Michel Nadeau, spécialiste du Québec Inc. et aussi analyste financier. Merci, Michel.
Cube Radio.